Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Contara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Un nouveau numéro de Contara plus beau, plus fort et plus pertinent grâce à son équipe incontournable qui regroupe Imen Wenzar de Radio Extérieure d'Espagne, Nadira Belkhoutout de chaîne Interrabat, Maya Dassili de Radio Tunis, chaîne internationale, Nanadzi Adriter de la radio publique libanaise, Pierre-Louis Alessandri de RCFM, Violette Rafidi de Radio Palestine Internationale et moi-même au micro et en direct de la capitale égyptienne, Dinar Abdelmegid de Radio Le Caire. Au sommaire de cette édition, comme d'habitude, on démarre avec l'actualité. Nana Ziad nous présente la situation politique actuelle du Liban, dans le viseur d'Eli Fayad, rédacteur en chef de l'Orient Le Jour. Dans son reportage, Nadira Belkhoutout nous présente la charte de la déontologie. La charte élaborée par le Conseil national de la presse en consultation avec le professionnel et les ONG actives dans les questions de la liberté de la presse. À Bastia, Pierre-Louis Alessandri nous présente le professeur Daniel Fagé, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'environnement marin, qui a parlé des langues auprès du laboratoire de l'université Stella Mari. Le professeur Assama Abdel-Fattah nous fait le point sur la situation économique en Égypte. Maya Dassili nous propose le portrait du Tunisien Najib Belhadi, couronné du titre mondial du marathon de nage, le plus durable en solo, non-stop et non assisté en eau de mer, et ce au sommet de l'eau libre 2019 à Los Angeles. Et on terminera notre tournée méditerranéenne en Palestine avec Violette Ravidi qui va nous faire connaître de près la ville de Gaza.
Contara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Extérieure d'Espagne.
Et on commence tout de suite par une chanson
que Maya Dassili nous propose cette semaine. Une reprise américaine d'une célèbre chanson du patrimoine tunisien « Taht el Yasmine Fellil » de Hedi Jouel. Elle est reprise ici par Alia Sikon.
Feet.
la première fois depuis la fin de la guerre civile en 1990 et depuis le début du mouvement de contestation le 17 octobre contre l'ensemble de la classe politique, les Libanais sont unis dans une révolte. Indépendamment de leurs origines sociales, géographiques ou religieuses, les manifestants réclament la fin d'un régime politique corrompu, maintenu par une élite qui leur a trop longtemps nié la possibilité de vivre de manière décente, et réclament un cabinet formé exclusivement de technocrates totalement indépendants des partis au pouvoir en vue d'élections parlementaires anticipées. Nana Ziad nous présente la situation politique actuelle du Liban dans le viseur d'Eli Fayad, rédacteur en chef de l'Orient le jour.
Le 17 octobre, les manifestants ont investi la rue libanaise pour protester contre la corruption du régime. Routes coupées, échauffourées avec les forces de l'ordre et les partisans du Hezbollah et du président du Parlement Nabih Berri, les deux ailes chiites du pays, les protestataires, jeunes et moins jeunes, sont montés au créneau réclamant la démission du gouvernement. Et démission ce fut du premier ministre sunnite Rafik Hariri et de son cabinet. Sauf que la rue continue de réclamer le départ de toute la classe politique qui en fait est constituée d'anciens ténors de la guerre civile, à quelques exceptions près. Sauf qu'aujourd'hui, ces mouvements ont paralysé toute l'économie du pays qui vacillait déjà. Les Libanais se retrouvent pris à leur propre piège et il semble que les tergiversations du pouvoir à former un gouvernement pourraient porter à croire qu'il table sur l'essoufflement du peuple qui s'appauvrit de jour en jour. Décryptage avec le rédacteur en chef de l'Orient le jour, Eli Fayad.
Le Liban est donc dans une situation tout à fait inédite. D'un côté, il y a un mouvement de contestation populaire qui prend de l'ampleur, parce que c'est un mouvement qui exprime un ras-le-bol général, et donc c'est le plus petit dénominateur commun donc entre tous ceux qui y participent. Ce mouvement donc n'est pas structuré, et pourtant on constate qu'il ne montre jusqu'ici aucun signe d'essoufflement et qu'il peut prendre des formes diverses en fonction de ce qui est disponible. En face, nous avons une classe politique qui est passablement discréditée par la mauvaise gouvernance dans le pays, qui dure depuis très longtemps, qui fait que nous avons, depuis la fin de la guerre civile, c'est-à-dire il y a 30 ans, nous avons une succession de gouvernements d'union nationale. Ces gouvernements d'union nationale, c'est-à-dire concrètement, c'est les gouvernements du donnant-donnant. C'est des gouvernements donc qui fonctionnent à coup d'impasse, à coup de blocage, et évidemment c'est une situation qui favorise aussi la corruption. Donc il y a suffisamment d'ingrédients pour provoquer un ras-le-bol général, et c'est le cas. Le mouvement de contestation a déjà provoquer la chute du gouvernement en place, et ça c'est évidemment c'est une bonne chose, mais on constate que les mêmes ingrédients qui ont toujours prévalu continuent pour ce qui est de la formation d'un nouveau cabinet. Et donc la rue demande, et qui en fait coïncide aussi avec ce que les donateurs du Liban demandent, les donateurs du Liban qui ont promis une enveloppe de 11 milliards de dollars à l'économie libanaise et qui demandent en échange évidemment des réformes qui jusqu'ici n'ont pas été faites. C'est un gouvernement de spécialistes, un gouvernement de personnalités indépendantes choisies hors des partis politiques. Or, jusqu'à présent, il y a évidemment des blocages, et nous constatons que les blocages aujourd'hui viennent surtout du plus grand bloc parlementaire au Parlement, c'est-à-dire le bloc aouniste, proche du président de la République, et bien entendu du Hezbollah, qui est son allié. Donc jusqu'où la question aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est jusqu'où iraient ces deux formations dans l'acceptation d'un gouvernement d'indépendant. Toute la question est là. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très difficile pour eux d'accepter, parce que cela signifie qu'ils n'ont plus de véritable contrôle sur le gouvernement, même un contrôle négatif. C'est ce qu'on attend de voir.
En attendant, ce bras de fer attise la créativité des fibres artistiques. En témoigne ce slam d'un jeune Libanais, Serge Nader.
On dit que l'espoir fait vivre, là je vis pour mon pays. Oublie le dollar ou la livre, pour trop longtemps j'ai obéi. Perdu dans ces nuages noirs, je vois partout les yeux qui brillent. J'ai rendez-vous avec l'histoire que je conterai à ma famille. Pour trop longtemps on s'est caché derrière les murailles du silence. Là rien ne peut nous arrêter, pas même le gaz ni la violence. Ça fait trop longtemps qu'on baigne dans ce bassin de corruption. La rage du peuple est un volcan qui a enfin fait éruption. Je vois certains pleurer des larmes pendant que d'autres pleurent du sang. Aujourd'hui notre plus belle arme c'est l'envie d'aller de l'avant. L'envie de voir les temps changer, qu'on soit remboursé un à un. Les budgets de vacances d'été qui privent les pauvres du quotidien. Aujourd'hui, je clame fièrement être un enfant de Beyrouth, où le cri commun du peuple vient étouffer la déroute. Le Liban ne fait qu'un, pas de politique, pas de religion. On va forcer le destin, c'est ça la révolution.
Rien n'est encore gagné pour le peuple libanais. Il faudra attendre la composition du futur cabinet pour voir si ces revendications ont bel et bien été entendues. Après les difficiles années ayant suivi la révolution égyptienne 2011, un redémarrage de la croissance égyptienne est dû aux réformes mises en œuvre depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi. En échange du prêt du FMI, le gouvernement égyptien s'est engagé en 2016 à mener des réformes drastiques. Instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, baisse des subventions publiques sur l'énergie, dévaluation de la devise nationale et d'autres réformes qui ont été difficiles sur le peuple égyptien. Le politologue Hassan Abdel Fattah revient sur ce sujet.
Vous savez, évaluer l'état économique de tel ou tel pays n'est pas une question simple, parce que vous avez besoin de savoir les normes en fonction desquelles vous pouvez évaluer l'économie ou l'état économique des pays. Il y a des normes adoptées par le système capitaliste, et ces normes établies par exemple aux États-Unis et ils sont adoptées par les instances financières comme le Fonds monétaire international. Si par exemple un pays a besoin pour redresser son économie de se faire octroyer des dettes, elle s'adresse au Fonds monétaire international. Là, le Fonds monétaire international doit commencer par étudier l'état économique. Et puis, il donne, disons, des impératifs, des ordres au pays. Et si le pays commence, en fait, à se conformer à ces ordres, dans ce cas, le Fonds monétaire international est prêt toujours à lui accorder le prêt recherché. Or, la question qui se pose, est-ce que le simple respect de ces normes capitalistes, je dirais pour le moment, est-ce que le simple respect de ces normes est suffisant pour redresser l'économie? Et comment peut-on évaluer le redressement de l'économie? C'est-à-dire par rapport au respect des normes. Le respect des normes, par exemple, aboutit à surmonter l'inflation, par exemple, à améliorer l'état des devises, comme c'est-à-dire les réserves en devises. Il pourra, par exemple, vous permettre de faire des projets, de construire des projets, de les réaliser, comme des projets, quelques projets infrastructurels, comme la construction des voies, c'est le cas de l'Égypte, à titre d'exemple. Mais le problème, c'est que quand on veut réaliser un projet infrastructurel, les citoyens quand même attendent de voir que ces projets commencent à porter leurs fruits. Et ces fruits se répercutent sur le niveau de vie égyptien. Et lorsque les Égyptiens attendent de plus en plus, les prix augmentent de plus en plus, alors que on écoute des déclarations officielles dire que l'économie maintenant de l'Égypte guérit, se redresse, et enfin on se heurte à ce contraste, on est confronté à un état quand même très difficile, la souffrance des citoyens. De quoi ils souffrent? Ils souffrent des prix, de la cherté de la vie. Là, c'est un problème. C'est un problème parce que vous savez que chaque pays a ses propres circonstances. Et dans ce cas, je pense que moi, personnellement, quand je veux évaluer l'état économique, il me suffit de regarder les citoyens. Comment ils vivent? Est-ce que les salaires, à titre d'exemple, est-ce que leurs salaires leur permettent de bien vivre? Est-ce qu'il y a une amélioration au niveau des salaires, au niveau du niveau de vie? C'est ça vraiment, à mon avis, la norme dominante. C'est la norme en fonction de laquelle on peut, à mon avis, évaluer l'économie. Or, vous savez que sur le plan des relations internationales, les normes adoptées sont complètement différentes. Sur le plan international, on ne regarde pas le niveau de vie du citoyen. On cherche à quel point tel ou tel pays, ou les plans économiques de tel ou tel pays, se conforment aux impératifs du Fonds monétaire international. Et c'est ça, parce que c'est pour cela que le Fonds monétaire international vous envoie des experts pour vérifier, pour diagnostiquer l'état économique chez vous. Et puis après, on vous donne une sorte de prescription, hein, une ordonnance, et on commence à voir à quel point vous respectez leurs normes. Mais est-ce que le respect va vous aboutir à l'amélioration de votre économie ?
L'économie égyptienne reprend des couleurs selon des indicateurs, mais le fardeau du redressement affecte l'Égyptien de la rue, comme le montrent les dernières hausses des prix.
Iktishaf musiki.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical. Okay, a musical discovery.
Et la découverte musicale d'une chanson marocaine que nous propose Nadia Abelkhoutout. Redouane, le golden boy marocain de la pop music. Redouane, c'est le premier musicien africain auréolé de 2 Grammy Awards. De son enfance, Nadir Hayat, son vrai nom, grandit heureux, accroché à sa guitare. Il chante Bob Dylan et Stevie Wonder. On écoute Redouane avec un medley de ses chansons.
Iktishaf musiki.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical. Okay, a musical discovery.
Okay. La réflexion sur l'éthique et la déontologie des médias suscite diverses questions. Il convient d'abord de clarifier les concepts pour alimenter le débat qui, à ces moments forts, notamment pendant les périodes électorales d'un côté, les professionnels de l'information, les acteurs des médias, mettent l'accent sur la nécessaire liberté de la presse et peuvent être en porte-à-faux dans leur pratique avec la philosophie et les règles de la profession. D'un autre côté, différentes institutions, que ce soit les institutions gouvernementales, la société civile ou de simples citoyens s'appuient sur les médias mais les interpellent au sujet d'une liberté qui ne saurait être sans responsabilité. Nadira Belkhotout nous définit la charte de la déontologie. Charte élaborée par le Conseil national de la presse en consultation avec les professionnels et les ONG actives dans les questions de la liberté de la presse. Elle s'inspire d'expériences internationales. Elle permet d'autoréguler une profession qui évolue et où la concurrence et la quête de l'exclusivité rendent parfois la limite entre la déontologie et le non-déontologie invisible dans certains cas.
Nous sommes avec le Conseil de la presse et avec la charte pour la déontologie de la profession. Et en tant que photographe, nous souhaitons être impliqués dans toutes les étapes du dialogue sur les questions qui concernent la profession. En tant que journaliste, notre présence ici à la présentation de la charte est très importante. Cette charte est souhaitable pour autoréguler la profession et la protéger. Nous souhaitons également que le Conseil de la presse réalise les aspirations des journalistes. La question de la déontologie de la presse est toujours d'actualité pour une profession évolutive. Chaque année, de nouveaux et nouvelles journalistes sont sur le marché du travail. Et les sites électroniques sont toujours en nombre croissant, mais ne disposant pas jusqu'à nos jours de référentiels déontologiques. Le Conseil national de la presse, nouvellement créé, a présenté cette semaine la charte de la déontologie, une présentation qui coïncide avec la journée nationale de la presse nationale. Mohamed Slahami, président de la commission de la déontologie au sein du Conseil de la presse, nous en présente la philosophie et les objectifs.
Pour tout ce qui est diffamation, post-coutier, délit de presse, nous sommes là pour évidemment être, disons, nous surveillons. Nous suivons de près, mais nous ne sommes pas là pour sanctionner, encore une fois, je vous dis. Nous sommes là pour essayer de faire respecter cette profession qui est tout simplement de respecter beaucoup plus disons, la vie privée des gens. Et puis, les fake news, les informations qui sont erronées, vous voyez. Alors, tout ça, évidemment, nous essayons de le combattre. De le combattre à travers des textes que nous avons. Nous avons évidemment une commission qui, elle, est chargée de suivre tout simplement ces problèmes-là. Et aussi, quand il y a des griefs qui sont présentés par des lecteurs, par des personnes qui se sentent blessées, qui se sentent touchées dans leur dignité, alors là, évidemment, c'est comme si on va vers un juge. Il a le choix de toutes les façons. Il peut toujours aller. Nous ne remplaçons pas le tribunal.
La charte est obligeante pour les journalistes et également pour les éditeurs. Elle est le résultat d'une grande réflexion et de débat entre tous les partenaires du monde des médias. Abdelmounaïm Dilami, membre du Conseil de la presse, est également un éditeur.
Déjà, le fait d'adopter une charte déontologique, moi, je considère, et c'est un fait, que c'est un pas très important dans l'organisation de notre vie professionnelle, d'une manière générale. Vous savez que le plus important, c'est d'avoir des repères qui sont communs aux uns et aux autres. Et la charte pose effectivement ces repères-là dans un sens qui ne peut que favoriser le développement d'une presse plus responsable, plus sérieuse et aussi plus responsable de l'évolution de la société. Donc c'est un pas extrêmement important, aussi bien pour les éditeurs, pour les journalistes, parce qu'à la fin, on sort un seul produit. Si on regarde l'histoire de la presse au Maroc, la presse d'abord était essentiellement politique, jusqu'aux années 80, à la fin des années 80. Donc il n'y avait pas ce besoin d'une charte spécifique. Les équilibres politiques se retrouvaient au niveau des médias, au niveau de la presse. Ce n'est plus le cas maintenant. Le secteur s'est libéralisé, la parole s'est libérée au niveau des Marocains, beaucoup plus que par le passé. Donc en fait, il est venu le moment de ne pas se contenter seulement des règles législatives et réglementaires, ce n'est plus suffisant, mais de poser également des règles morales dans l'exercice de la profession.
De manière systématique, les médias vont participer à la définition et à la redéfinition, à la construction et à la déconstruction en fonction des périodes ou des choix politiques du moment et de la réalité sociale.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Extérieur d'Espagne.
À Bastia, le professeur Daniel Fagé, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'environnement marin, qui a parlé des lagunes auprès du laboratoire de l'Université Stella Mar. Première question posée par Pierre-Louis Alessandri. Que doit-on entendre par zone humide ?
On désigne par lagune tous les milieux humides littoraux qui sont constitués d'un étang à proprement parler et d'un cordon, d'une aire. Un cordon qui est toujours en activité, qui est vif, ou bien qui est un cordon fossile. Cela dépend si on a affaire à une lagune classique, stricto sensu, ou une lagune tectonique.
Et la tectonique, c'est laquelle ? Et la classique, c'est laquelle ?
Vous avez d'une part des lagunes qui sont toujours mobiles, toujours en cours de formation ou d'évolution. C'est Palavas, c'est l'Efkad en Grèce. Et puis vous avez des lagunes tectoniques qui sont issues de l'effondrement d'une portion du rivage, qui sont souvent plus profondes, au lac de Bizerte ou à la lagune de Hieras à Lesbos.
Il n'y a pas véritablement une configuration particulière des lagunes méditerranéennes. Elles sont égales aux autres lagunes maritimes.
Elles sont égales aux autres lagunes maritimes. Hein. On trouve les mêmes en Côte d'Ivoire, sur une partie des côtes africaines et ailleurs dans le monde. Elles ont cependant une particularité, c'est leur importance socio-économique dans l'histoire de l'économie méditerranéenne.
Alors, puisque vous parlez de lagunes, est-ce qu'elles sont, je dirais, porteuses d'une pêche patrimoniale ?
Les lagunes sont des lieux, des conservatoires, je dirais, des pêches patrimoniales. Elles ont eu, au cours de l'histoire de la Méditerranée, elles ont occupé une importance très grande, en particulier entre la fin de l'Empire romain et les débuts de l'époque moderne, où on a assisté à une sorte de continentalisation des pêches, avec un repli des communautés littorales, soit dans les eaux fluviales, soit dans les eaux lagunaires. Et ces lagunes ont continué à fonctionner en tant qu'économie halieutique jusqu'à l'époque contemporaine. Elles ont conservé, au sein de leur pêche, une partie des techniques qui avaient été mises au point depuis l'Antiquité.
Qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces lagunes méditerranéennes, entre elles ?
D'abord, un certain nombre d'espèces qu'elles exploitent. On exploite dans ces lagunes beaucoup d'espèces, mais particulièrement la dorade, particulièrement l'anguille ou encore le muge, un muge qui est identitaire, méditerranéen, parce que c'est à partir de lui que l'on fabriquait.
La boutargue.
Encore aujourd'hui, la boutargue, bien évidemment, qui est un produit identitaire et emblématique. Elles ont en commun aussi un certain nombre de techniques de pêche qu'on ne retrouve que dans les zones lagunaires. Je pense en particulier aux verveux ou encore aux bordigues, qui sont des techniques très très particulières et qui sont propres aux lagunes.
Est-ce que ces pêches patrimoniales, ces techniques artisanales, demeurent ou bien il y a eu une rupture aujourd'hui ?
Je dirais que pour l'essentiel, elles demeurent, en particulier l'usage du verveux ou du filet trémaille, du filet maillant, demeure d'actualité. Un certain nombre de techniques, tout de même, ont été réduites, ont quasiment disparu. Je pense en particulier aux grandes scènes de plage qui étaient utilisées depuis l'Antiquité et qui aujourd'hui sont quasiment tombées en désuétude. Je pense aussi aux bordigues, ces grandes pêcheries fixes qui barraient l'entrée des lagunes au niveau des gros, donc au niveau où la lagune communique avec la mer ouverte. Vous aviez ces grands pièges à poissons qui existaient dans la plupart des lagunes, qui continuent d'exister d'ailleurs dans certaines lagunes méditerranéennes, qui sont devenues rarissimes.
Est-ce que la pêche dans ces lagunes est intensive ou bien c'est une pêche mesurée ?
Je dirais que c'est une pêche mesurée. mesuré parce que d'abord on repose sur des techniques qui sont des techniques artisanales, hein, d'autant que le chalutage qui a concerné les lagunes à l'époque moderne est aujourd'hui inexistant dans les lagunes, que les pêcheurs sont en prise directe avec le milieu. Donc on a affaire à des pêches qui s'inscrivent en fait dans un cycle vertueux de ce qu'on pourrait appeler des pêches durables.
Daniel Fagé, maître de conférences d'histoire moderne à l'Université de Provence, ex-Marseille, est membre du laboratoire TELEM à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Ses travaux sont consacrés à l'histoire environnementale du milieu marin méditerranéen du XVIIIe au XXe siècle.
Le nageur tunisien Najib Belhadi, 67 ans, lieutenant-colonel de l'armée de l'air retraité, est le premier sportif tunisien a figuré au Guinness Book des records.
Najib Belhadi, couronné du titre mondial du marathon de nage, le plus durable en solo, non-stop et non assisté en eau de mer, et ce au sommet de l'eau libre 2019 à Los Angeles. Najib Belhadi a réalisé un record mondial en parcourant au moins 120 km à la nage de Sfax à Djerba, entre les 15 et 18 septembre 2018. Le nageur marathonien réalise son premier exploit en Tunisie par sa traversée à la nage Kerkena Sfax avec la traversée de la Manche en un temps record de 16h35 dans un courant de marnage de plus de 7 mètres d'amplitude et à une température de 14 degrés.
Il en parle au micro de Maya Dassili.
Mon marathon de Sfax à Djerba, c'est calculé par l'Organisation mondiale de l'eau libre. C'est 120 km direct. J'ai nagé plus que 150 km. Mais ce qu'on appelle l'homologation se fait en 120 km. Et j'ai fait 76 heures 30 minutes. C'était le 15, le 16 et le 18 septembre 2018. Après une année de vérification et voir même s'il y a d'autres nageurs qui pouvaient battre mon record, il y a des tentatives en 2019, mais elle n'a pas abouti. Et l'organisation mondiale a vu que ma place, c'est le Guinness Book. Donc, ipso facto, ils m'ont invité à Los Angeles le 5 octobre. Et voilà, mon rêve s'est réalisé là-bas et je suis très content de cette consécration qui trace toute ma carrière de la traversée de la Manche, de l'homme de l'année de la planète en 2016, ce qu'on appelle le World Performance en 2011 et aussi le détroit de Bering. Et puis, il y a aussi un message pour les futures générations. C'est que je dis, voilà, je suis un homme âgé de 67 ans, donc je ne veux pas marchander sur mon âge. Il y a beaucoup de nageurs qui marchandent sur leur âge et entrent au Guinness Book. Je n'aime pas faire ça. Je veux être B2B, c'est-à-dire que mes performances, mes exploits pour tout âge. Et je dis, donc j'ai la légitimité de dire aux futures générations, jeunes, enfants et adultes compris, que voilà, l'ère d'être champion du monde, elle a pris son temps, et nous avons beaucoup de champions du monde. Il faut passer à la quatrième vitesse et d'être à l'avant-garde du sport mondial.
Cette consécration ou ce titre, ça couronne en fait plusieurs décennies de carrière. Ce n'est pas votre premier titre ni le premier exploit.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut savoir un peu plus justement sur votre parcours?
Si je suis arrivé à ce stade-là, c'est qu'il y a pas mal de choses à découvrir en soi-même. Et que dans ce genre de défis, de grands défis, il y a en premier lieu le don. J'ai réalisé de plus en plus que j'ai un don. Chaque fois où j'avance, il y a ce don-là, il y a ce soutien-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs discriminants qui caractérisent ma sphère physique et ma sphère mentale. Donc, il y a ce qu'on appelle des critères de facteurs de force qui sont interopérables avec la mer, ce qu'on appelle l'incorporation avec la mer. Il ne s'agit pas de faire une bataille contre la mer, ce n'est pas Don Quichotte. De plus en plus que ces facteurs déterminants, par exemple mon tissu adipeux qui résiste à l'hypothermie, ma flottabilité qui me donne une certaine aisance et une récupération dans l'eau durant mon escale pour le ravitaillement, ou bien dans ma progression comme un aéroglisseur, sur l'eau, ma pulsation cardiaque qui est l'endurance totale, mon biomécanique qui donne des ondes de stabilité qui économisent mon énergie, et puis d'autres se réunissent avec un mental de challenge, de commitment, donc d'engagement, de vouloir faire une victoire. Ça se combine ensemble pour créer cette énergie-là. Depuis mon jeune âge, et j'insiste là sur Najib El Hadi, l'enfant, dans un club nautique, il faut avoir au début cet environnement-là et que cet environnement va vous guider et va vous mettre en tant que nageur chevronné avec votre volonté, détermination, etc., continuité. Et finalement, vous arrivez à l'objectif.
Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez d'autres objectifs ou d'autres défis à relever?
Oui, effectivement, j'ai parlé de facteurs discriminants et les sphères et tout ça. Ça donne un système de style of life, c'est-à-dire que je nage parce que j'aime nager et que j'ai ce qu'on appelle une relation intime avec la mer. Donc, ma carrière sera toujours un nageur et comme tout nageur, il essaie de compléter son bouquet de fleurs. Il me reste le Seven Ocean. J'ai fait déjà la manche de ces océans. Et puis, bon, je planifie pour l'été prochain pour aller à Gibraltar ou à Catalina. Et qu'il y a d'autres. Et voilà, ma vie est tellement cool comme l'eau.
Depuis son record, le Bel Hadi Trophy est décerné chaque année aux nageurs vainqueurs de la traversée de la Manche dans le plus haut courant marin. Pierre-Louis Alessandri nous présente le groupe corse Vitalba, chante Fiore di Palestina, image de Palestine.
Sotto a un cielo spurgulato, a mezzo a un alivedo, un agnello cenato e campa chiedo. La carezza un sidello e augura un pastore in su lobo così bello. Vita pare d'amore. Gelati d'umane e l'agnello saltilegia alla giudielli d'umane. So così belli si loghi quando l'ora è sirena, quando so spenti i fuochi e appaggia da vena. Yeah. pignata una spina.
Puisque nous sommes en Palestine, on y va tout de suite avec Violette Ravidi qui va nous faire connaître de près la ville de
Gaza. Gaza est l'une des plus anciennes villes du monde. Une ville qui a été fondée par les Arabes cananiens vers le 3e millénaire avant Jésus. En fait, le nom de la ville de Gaza que nous visitons aujourd'hui a été changé par le changement des nations qui l'ont accompagnée. Les Cananiens l'ont appelée Hazati. Les anciens Égyptiens l'ont appelé Gazo et Radeto. Mais Gaza a conservé son nom arabe qu'il porte encore jusqu'à nos jours. Chers auditeurs, chères auditrices, Gaza a un emplacement stratégique et elle est considérée comme la porte d'entrée vers l'Asie et l'entrée à l'Afrique par son emplacement entre l'Égypte et le Levant. Ainsi, elle a toujours été un point de transport et une station de convoi et donc un centre commercial mondial. Gaza est célèbre pour sa culture d'argumes, ainsi que des Arabes fruitiers tels que les raisins, les figues et les baies. En outre, Gaza a un avantage industriel, comme les autres villes palestiniennes, où est le secteur industriel et représenté dans l'industrie artisanale, les ateliers et certains types d'industries légères. Le tourisme à Gaza dépend des sites historiques et religieux, qui y sont largement répandus. Nous allons donc attirer votre attention des sites touristiques et religieux les plus intéressants de la ville de Gaza. La mosquée Al-Kibir, la plus ancienne mosquée de la ville de Gaza, située dans le centre du vieux Gaza, près du vieux marché, qui reflète dans sa beauté et sa splendeur l'ancienne architecture de la ville de Gaza. Il est appelé la mosquée des Umayyades par rapport au calife Omar. Il est appelé la grande mosquée, parce que c'est la plus grande mosquée de Gaza. Souq al-Qaysariyyah, situé dans le quartier al-Daraj al-Kibir, le marché est construit à l'époque mamelouk. Il est appelé le marché Qaysariyyah ou le marché de l'or par rapport au commerce de l'or. L'église orthodoxe. Le bâtiment de l'église orthodoxe date du 5e siècle de notre ère. Les bâtiments datent du 12e siècle et l'église a été rénovée en 1856. Chers auditeurs, chères auditrices, après ce voyage dans l'histoire de la ville de Gaza, je pense qu'il est le temps de déguster les plats les plus délicieux et les plus importants qui caractérisent la ville de Gaza. Le riz al-Qidra. Il se compose de riz, de la viande, de pois chiches et d'oignons. Il a un goût merveilleux. C'est l'un des aliments les plus importants qui sont offerts à toutes les occasions à Gaza. Assoumaqiyya. C'est un ancien plat populaire qui est offert dans toutes les occasions, surtout les occasions de joie et de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Al-Fisir. Les Palestiniens mangent ce plat le matin de Eid al-Fitr. Il s'agit d'un poisson très salé car il est stocké dans une grande quantité de gros sel. Ce plat a besoin d'une longue période pour être prêt. Enfin, nous vous présenterons les desserts les plus séduisants à Gaza. Al-Psessa. C'est l'un des desserts les plus célèbres qui sont faits dans la maison. Elle se compose de farine de blé, de sésame, de caroube et d'huile d'olive. Ka'k al-Qizha ou Ka'k al-Asfar, appelé des gâteaux. Mais son nom ne provient pas du goût car il n'est pas sucré, mais il est salé. Il est présenté à l'occasion de la mort ou lors des visites au cimetière.
On écoute la chanson que nous propose Viola Trafidi, Ya Razamili Hashams de Hicham Mijahed.
غزل اللي طردت هالعدا تصمد ولا تخضع بتظل عطول المدى نجمة نصر تلمع يدك بواريد الغضب تحمي حما كل العرب يلا اشعل ترابك لهب خلي العدو يولي
يا غزني لي عالشمس واحكي لها هلي خلي القمر يهمس همس لجراحنا يصلي يا غز ميلي عالشمس واحكي لها هلي خلي القمر يهمس همس لجراحنا يصلي نسماتك دواء كلي وداوي انت المنى وانت الهوى اللي بيشفيك يا غز نسماتك دواء كلي وداوي انت المنى وانت الهوى اللي بيشفيني الشمس ما تندبح شمسنا طلي بكرة الحصار رح ينكسر وانتي مثل ما انتي هذا الزمان رح يفتكر ما يوم بدهن فيه بكرة الحصار رح ينكسر وانتي مثل ما انتي هذا الزمان رح يفتكر ما يوم بدهن الوتر غني معي وعلي
Voilà, c'est la fin de Contara. Merci d'être des nôtres. Cette édition a été réalisée par Dina Abdelmekid de Radio Le Caire. Je vous rappelle que Contara est le fruit d'une large coopération avec Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Inter-Rabat, Radio Tunis, chaîne internationale, Radio Liban, Radio Palestine internationale et Radio Le Caire. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre page Facebook pour y retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter votre Contara. Au revoir, à la semaine prochaine.